Ce matin en Beauce.
Il y a beaucoup, beaucoup de changements. Se demande s'il y a beaucoup de... s'il y a autant de preuves scientifiques derrière les décisions qui sont prises, particulièrement à l'égard des enfants. J'écoutais le témoignage et c'est là que je me suis dit, il faut vraiment que je parle à des spécialistes. J'entendais le docteur Chicoine, qui est un pédiatre renommé à Montréal, qui disait que le plus de 2 mètres pour les enfants de moins de 14 ans, c'était illusoire et même ça pouvait être néfaste. Et pour nous en parler et voir si elle est un peu en accord avec cette position-là, ma prochaine invitée, Mme Catherine Derry, pédiatre à l'hôpital de Saint-Georges. Mme Derry, bonjour.
Bonjour.
Êtes-vous d'accord avec la position du Dr Chicoine?
Je suis d'accord avec la position du Dr Chicoine, qui représente en fait la position des pédiatres du Québec. Il y a un fait, c'est que les enfants sont des êtres sociaux, ils ont besoin de ce contact social-là pour se développer. Et avec leur spontanéité, le 2 mètres est illusoire quand même. On sait que les enfants, sont peu les vecteurs de transmission, c'est-à-dire qu'ils donnent peu la maladie et qu'ils font une maladie très bénigne la grande majorité du temps. Donc, il faut tolérer, accepter que ce 2 mètres-là ne sera pas toujours respecté chez les enfants. On parle pas des adolescents, mais chez les enfants, pour qu'on accepte qu'ils retournent dans leurs activités normales et qu'ils puissent se développer normalement.
Qu'est-ce qu'on peut classer comme enfant? De quel âge à quel âge peut-on dire on est encore dans l'enfance?
Bien, la définition va aller avec le début de la puberté qui est variable selon chaque enfant, mais on peut parler du primaire comme enfant. On peut définir ça au niveau comme pour l'heure actuelle. Donc, les enfants du primaire, on peut cibler le primaire.
Bon, ça a des effets néfastes que de vouloir les forcer à respecter une distance.
Oui, bien, des effets d'hypervigilance, d'anxiété. Des aspects aussi, depuis qu'ils sont tout petits, on leur apprend à partager, à ressentir les émotions des autres, à faire preuve de réciprocité. Et là, tout d'un coup, on les empêche, on leur dit que ça, c'est dangereux. Alors, c'est ça qui est néfaste pour leur développement, pour leur jugement.
On a augmenté le nombre d'enfants par moniteur. Là, on sait que les camps d'été arrivent. On avait peur du côté de bien des parents que ce soit fermé à cause justement de la distanciation sociale. Là, on a décidé d'augmenter le ratio moniteur-enfant. Est-ce qu'on n'aurait pas pu aller plus loin là, pour ceux qui sont encore d'âge primaire et dire « ouvrez ça à l'ensemble de tous les enfants qui veulent y aller » parce qu'il y en a qui vont se sentir rejetés là-dedans. Là.
Ce que j'ai lu, il me semble, c'est que la santé publique avait accepté les ratios à peu près normaux hier. Je pense qu'ils ont donné une nouvelle consigne. Et je pense que ça va donner la possibilité à beaucoup plus d'enfants de fréquenter les camps de jour. Il demeure que les mesures d'hygiène vont être très importantes. Les mesures d'hygiène des enfants, se laver les mains, fréquemment. La mesure que va appliquer les adultes, les jeunes adultes ou les plus vieux adolescents qui vont s'occuper de ces enfants-là. Et ça, c'est très important comme message. Les adultes, eux, ne doivent pas, je parle pas des moniteurs là, qui vont s'occuper des enfants, mais les adultes dans la société, eux, ne doivent pas comme dire « Ah, si on permet que des fois c'est moins de 2 mètres chez les enfants, on va faire pareil. » Non. Ça, c'est très important pour la transmission. Les adultes doivent rester vigilants à faire la distanciation sociale et les mesures d'hygiène recommandées. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir donner un peu plus d'air à nos enfants.
Mais ne pas intervenir si des enfants décident de jouer ensemble dans un petit tas, ne pas rentrer là-dedans et commencer à leur faire la leçon, là.
Exactement. Une des mesures qui peut diminuer la transmission, ça va être de respecter les groupes. Alors, c'est ce qu'on suggère, c'est que les groupes puissent avoir une distanciation, qu'on accepte la distanciation de moins de 2 mètres chez les enfants, mais qu'ils demeurent dans leur groupe, qu'il n'y ait pas d'échange entre les groupes, puis qu'il n'y ait pas d'échange de moniteurs entre les groupes. Donc, ça reste un groupe fermé pour tout l'été.
J'ai, dans mon voisinage, je les vois, les enfants, tous les jours, trois enfants qui, à cause de l'état de santé de l'un de leurs parents, n'ont pas réintégré l'école, alors qu'ils voient tous les autres de la rue partir à l'école maintenant chaque matin. Ils trouvent ça difficile, ils trouvent ça dur. Est-ce que ça peut avoir un effet sur à long terme?
C'est sûr que les recommandations pour les familles où est-ce qu'il y a quelqu'un de vulnérable demeurent les mêmes. Alors, ces enfants-là, ben, je pense que je connais pas la situation, mais effectivement, on a les mêmes recommandations. S'il y a quelqu'un de très vulnérable dans la famille, parce qu'il est immunosupprimé ou autre raison, il est recommandé de pas fréquenter des milieux, tu sais, où est-ce que la distanciation sera pas respectée. Est-ce que c'est difficile? Très difficile. Moi, depuis 2 semaines, je vois des enfants qui sont retournés à l'école et ça leur fait du bien profondément. Au point de vue de leur humeur, de leur hygiène de vie, de leur cycle de sommeil, de leur appétit, de leur joie de vivre. Alors, ces enfants-là, qui font partie des familles vulnérables, effectivement, c'est très difficile. Et les enfants sont résilients. Et je pense que les enfants comprennent, s'il y a un des parents qui est très vulnérable ou un membre de la fratrie, que eux, ben, c'est leur effort et leur défi à faire.
Vous êtes pédiatre à l'hôpital de Saint-Georges. Est-ce que vous avez pu constater des effets de ce confinement chez des jeunes qui vous ont été que vous avez eu à traiter ou encore à recevoir?
Tout à fait. Avant la reprise de l'école, moi, j'ai continué mes activités par téléphone, parfois par présentiel. Et les enfants, il y en avait certainement un tiers qui était plus triste, plus irritable, un cycle du sommeil complètement déréglé. Les adolescents aussi, c'est très difficile pour eux parce que eux ont pas été déconfinés, ont pas la joie de voir leurs amis. Vous savez l'importance que ça a à cet âge-là, d'accomplir leur année scolaire, de terminer leur secondaire pour plusieurs. Les adolescents ont des problèmes d'anxiété et de tristesse pour plus d'un tiers de cette population-là. Fait que c'est vraiment, oui, ça a des effets délétères. Puis en plus, ben, ils vont être plus portés à rester dans la maison, donc ils ont aussi une moins bonne hygiène de vie, ils sont moins actifs.
Et en plus, on les prive d'activités sportives.
Oui. On les prive d'activités sportives qui sont extérieures. On ose espérer que la santé publique va se positionner pour des activités sportives et permettre à ces jeunes-là de pratiquer des activités sportives à l'extérieur cet été.
Parce que sinon, on va développer quoi? Encore plus d'anxiété, encore plus de tous les problèmes que vous nous avez mentionnés?
Eh bien oui, encore plus d'anxiété, encore, plus de sédentarité. Alors, et peut-être que ces jeunes-là vont arrêter d'obéir à l'ordre public aussi à un moment donné. Hein. On en voit de plus en plus qui sont regroupés. Donc, je pense qu'il faut penser à des mesures qui seraient tout de même sécuritaires, puis une mesure extérieure et une mesure plus sécuritaire qu'intérieur, hein, un groupe qui est à l'extérieur. Dans les activités sportives, on respecte souvent le 2 mètres dans beaucoup d'activités sportives extérieures.
Je m'oriente un peu vers une route parallèle, mais je reste dans le monde des enfants. Bon, il y a toute cette crise qu'on connaît actuellement là, sur le racisme aux États-Unis et la brutalité policière. j'avais développé, moi, hier, un argument disant que on ne naît pas raciste. Les enfants sont aiment n'importe qui, peu importe la couleur de sa peau. Et on avait une vidéo qui nous a été envoyée par une de nos collègues où on voit deux enfants d'à peu près 2 ans et demi, 3 ans, qui se retrouvent, qui se voient sur le trottoir et qui partent à la course, un petit blanc et un petit noir, qui vont s'enlacer tellement ils sont contents de se retrouver. Et là, ils partent à courir ensemble. On sait comment les enfants se comportent là, lorsqu'ils ont un ami proche. Dites-moi, comment ça se fait qu'à un moment donné, on voit se développer cette idée de racisme chez l'enfant?
Ben c'est le message transmis par les parents, puis la société par la suite. Hein, donc, quand tu es tout petit, ta société, c'est les parents, c'est ta famille proche, ta famille élargie. Les enfants qui voient un enfant d'une autre couleur vont dire « Ah, il est d'une autre couleur ». Mais c'est la réponse que l'adulte lui donne par rapport à ça.
Parce que l'enfant par lui-même s'en contrefou.
Ben, il voit des chiens de toutes les couleurs. C'est un chien pour lui. Il voit, tu sais, je veux dire, tout est merveilleux pour un enfant. C'est la même chose s'il voit un autre enfant d'une autre couleur, c'est un autre enfant d'une autre couleur et c'est tout. Alors, c'est le message qu'on lui transmet. Lui, il a les yeux bleus, lui, il a les yeux bruns, les cheveux, la peau, c'est des couleurs différentes et c'est tout.
En terminant, Mme Derry, est-ce que vous avez dû augmenter le nombre d'interventions que vous faites généralement auprès des enfants à cause de cette période de pandémie?
Je dirais que l'équipe psychosociale de santé mentale jeunesse est très active. Eux aussi avaient des restrictions là, de distanciation puis de communication par téléphone ou par visioconférence. Mais ils ont été très actifs et il y a de nombreuses demandes, effectivement. À cause de la pénurie de personnel, ben vous savez que les effectifs ne peuvent pas être augmentés. La pénurie de personnel dans le milieu hospitalier dans le CIS, elle est partout sur le territoire. Mais ils ont été très actifs. Puis nous, comme médecins, on a été très actifs. On a pris nos téléphones. Puis on a appelé les familles.
Bien, Madame Derry, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien ce matin. Et encore une fois, chapeau pour le travail que vous effectuez auprès des enfants qui n'ont pas facile par les temps qui courent.
Merci beaucoup. Puis on va souhaiter un bel été ensoleillé pour que nos enfants puissent jouer dehors.
Oui, absolument. Merci beaucoup, Madame Derry.
Bonjour.
Au revoir, Mme Catherine Derry, en fait, docteur Catherine Derry, et pédiatre à l'hôpital de Saint-Georges.